Bonsoir, nous vous proposons aujourd'hui d'écouter Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas France. Véronique Fayet qui fut également de 1995 à 2014 adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente de la communauté urbaine en charge des solidarités et du logement. Elle intervenait le 3 juillet dernier dans l'église de Castanet-Tolozan, dans le diocèse de Toulouse, où se déroulait la 8e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet. Le thème de cette 8e édition, « Vivre ensemble, quel engagement pour aujourd'hui ?» est le sujet de la conférence de ce soir, « S'associer avec les plus pauvres, une ardente obligation ».
Bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être avec vous et de faire votre connaissance. Et j'espère que cette matinée sera effectivement un dialogue, parce que je n'ai pas de... Je n'ai rien à vous apprendre, peut-être juste des petits points de repère à partager avec vous. Donc peut-être pour vous dire qui je suis et puis d'où je vous parle, comme disent certains, me présenter en quelques mots. J'habite Bordeaux depuis un certain nombre d'années et j'ai été élue de Bordeaux pendant 25 ans. Et notamment pendant 3 mandats, c'est-à-dire 19 ans, parce qu'on a eu un mandat qui a duré 7 ans, je me souviens plus pourquoi. Donc pendant 3 mandats, j'ai été adjointe d'Alain Juppé, en charge de toutes les questions de solidarité, et vice-présidente de la communauté urbaine en charge du logement. Voilà, donc j'ai beaucoup appris de cette expérience d'élu local, j'ai été passionnée par cette expérience. Mais comme je suis contre le cumul des mandats, j'ai considéré qu'au bout de 25 ans, c'était bien, que j'avais fait ce que j'avais à faire. Et donc j'avais dit à Alain Juppé que je souhaitais arrêter donc aux dernières élections municipales. Voilà. Et puis donc je pensais prendre un petit temps sabbatique avant de me diriger vers d'autres engagements, parce que je suis quand même une militante dans l'âme, donc on se refait pas à 60 ans et des poussières. Et puis le Secours catholique est venu me chercher et donc je suis présidente du Secours catholique depuis un an. Donc c'est une grande joie, j'ai pas eu l'année sabbatique que j'avais prévue, mais tant pis, parfois le Saint-Esprit décide d'autres choix, d'autres projets. Et donc je suis très heureuse de cet engagement. Voilà. Et donc et en fait ce qui me rend heureuse, c'est justement au Secours catholique de pouvoir faire la synthèse entre cet engagement politique, puisqu'au Secours catholique on essaie de s'attaquer aux causes de la pauvreté, donc avec un vrai travail politique dans la société extrêmement important, donc dont je pourrais vous dire quelques mots parce que c'est parfois méconnu. Et puis mon engagement chrétien. Effectivement, pendant des années, donc je parlais en tant qu'élu, et donc je n'affichais pas ma foi chrétienne, même si tout le monde le savait, et je ne m'en cachais pas. Mais néanmoins, il y a quand même un devoir de réserve, évidemment. Et là, bah, je suis très heureux de pouvoir affirmer franchement ces deux pans de mon identité, et de pouvoir citer le pape avec bonheur, citer l'évangile, etc. Voilà. Donc c'est un peu un temps de synthèse dans ma vie, et donc et un temps de bonheur. Donc j'ai choisi dans mon intervention de vous parler de l'association avec les plus pauvres, s'associer avec les plus pauvres. Je mets mon chronomètre aussi. Une ardente obligation, parce que c'est un peu le fil rouge en fait de mon engagement, puisque avant d'être à la mairie de Bordeaux, j'ai été engagée avec ATD Quart Monde pendant quelques années, et donc c'est d'ailleurs pour ça que la municipalité est venue me chercher, hein. Ça arrive souvent, quand vous avez un engagement associatif fort, les élus viennent vous chercher. Voilà. Donc c'est un peu le fil rouge de mon engagement, et ça me paraissait important dans le contexte de cette université d'été d'aborder ce sujet. Donc j'aborderai trois points. Qui sont les pauvres pour moi, justement? Avec qui je veux m'associer? Avec quels pauvres? Deuxièmement, pourquoi? Quel intérêt? Et puis troisièmement, comment faire? Parce que ça ne semble pas si facile que ça. Alors, quelques points sur qui sont les pauvres pour moi. Quelle image j'en ai? Comment je parle d'eux? Comment je les regarde? Et donc, en prenant comme présupposé qu'il y a évidemment toutes sortes de pauvreté, que nous sommes tous pauvres d'une certaine manière, mais que là on va plutôt parler ce matin de ceux qui cumulent toutes les pauvretés, les pauvretés matérielles, culturelles, affectives, etc. Ceux dont le père Brzezinski, en 1987, quand il avait fait son rapport au Conseil économique et social, disait qu'ils sont dans la misère, parce qu'ils cumulent tout, et de manière durable, parfois sur plusieurs générations. Donc c'est plutôt de cela qu'on va parler. Alors qui sont-ils ? Il y a vraiment des idées très simplistes, et pour ne pas dire populistes, qui traînent dans la société française, où on se dit que ce sont des profiteurs. Les pauvres sont des profiteurs, ils profitent des aides au mieux et ils ne s'en privent pas. Et donc je vous conseille la lecture d'un petit livre formidable, qui s'appelle « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ». Donc je vais m'appuyer un petit peu sur ce livre-là, qui a été fait pour l'essentiel par ATD Quart-Monde, mais qui est co-signé par un grand nombre de syndicats, par le Secours catholique, par les apprentis d'Auteuil. Voilà. Donc c'est vraiment quand même un livre collectif qui fait référence. Donc j'en ai porté quelques-uns, et puis sinon vous le commandez pour la modique somme de 5 euros. Parce qu'il est remis à jour en plus chaque année. Donc, il s'appuie vraiment sur des statistiques nationales très fiables. Alors, sur l'idée toute faite que les pauvres font tout pour profiter des aides, eh bien, il faut mettre en regard le non-recours aux aides. Puisqu'en fait, pour tout un tas de raisons, soit parce que c'est trop compliqué, c'est une première raison, soit parce que les gens n'ont pas envie d'aller voir l'assistante sociale, de dépendre de l'aide publique, d'être plus ou moins contrôlés, soit parce qu'ils ne sont pas informés aussi, et que les démarches sont trop complexes, il y a des dossiers pour lesquels il faut vraiment une paperasse incroyable. Et donc pour toutes ces raisons, en fait, les gens ne profitent pas des aides, ils n'y ont pas recours. Et je vous donne quelques chiffres très précis. Pour le RSA de base, donc qui était l'ancien RMI, il y a 35% des gens qui y auraient droit et qui ne le demandent pas. C'est considérable. Plus d'un tiers des gens qui auraient droit au RSA et qui ne le demandent pas. Pour le RSA activité, qui est celui qui complète les revenus du travail, vous savez qu'il y a deux parties. Donc il y a, pour des gens qui ont des tout petits salaires, la possibilité de demander un complément. Alors le complément est souvent petit, ça peut être 100 euros, 200 euros, voilà. Et donc c'est beaucoup de démarches pour une petite somme. Et donc là, c'est carrément deux tiers des personnes qui ne le demandent pas. 68% des personnes n'ont pas recours au RSA activité. Pour la CMU complémentaire, la CMU de base est automatique pour la plupart des gens, mais il y a une CMU complémentaire, c'est 30% des gens qui ne le demandent pas. Et pour ce qu'on appelle le chèque santé, l'aide à la complémentaire santé, qui est un chèque santé en fait, qui s'adresse à des personnes qui ont un petit peu plus que les minima sociaux et à qui la sécurité sociale propose un chèque santé pour se payer une mutuelle. C'est très important, une mutuelle, parce que si on n'a pas de mutuelle aujourd'hui, on ne se soigne pas. Et bien là, c'est 70% des gens qui auraient droit et qui ne le demandent pas. La première raison, c'est parce que c'est beaucoup trop complexe. Il faut un dossier, mais je vous dis, j'ai essayé une fois de le remplir, c'est hallucinant. Et puis après, une fois qu'on a son petit chèque, éventuellement, si on a réussi le parcours du combattant du dossier, c'est très compliqué d'aller voir une mutuelle. Elle vous parle un jargon, on va vous rembourser X% du plafond de la sécu, etc. On n'y comprend pas grand-chose et on se dit, oulala, et à quoi je vais avoir droit finalement pour ce que je vais donner ? Donc du côté de la santé, il y a beaucoup de non-recours aux droits et puis du coup de renoncement aux soins, puisque quand on n'a pas les droits, on renonce à se soigner. Voilà. Donc cette idée des profiteurs, il faut vraiment la battre en brèche. Une idée qui va avec aussi, c'est qu'ils sont fraudeurs. Ah bah oui, ça c'est bien connu, les pauvres sont des fraudeurs, sont tous des fraudeurs. Voilà, alors là aussi c'est vraiment une idée reçue qui est extrêmement nuisible, puisque si on donne quelques chiffres aussi, il y a de la fraude en prestations sociales, oui, parce que les pauvres ils sont comme la société française, il y a des fraudeurs et puis il y a des gens honnêtes, hein. Puis il y a des fraudeurs qui sont fraudeurs malgré eux parce qu'ils se sont trompés dans les déclarations trimestrielles aussi, et puis la CAF récupère beaucoup de choses. Donc la fraude au RSA c'est 60 millions d'euros. Bon, ça fait beaucoup. Mais la fraude à l'assurance maladie faite par les professionnels de santé eux-mêmes, c'est 120 millions. le double. Le travail non déclaré par les entreprises, c'est quasiment 200 millions. Et puis alors là, si on parle de la fraude fiscale, qui est un sport national, c'est en milliards, c'est plus de 2 milliards d'euros. Voilà. Donc le Conseil d'État avait conclu par une très jolie phrase en disant bon, 60 millions d'euros de fraude au RSA, rapporté au nombre de bénéficiaires, ça fait 30 euros par personne et par an. Et le Conseil d'État dit la fraude des pauvres est une pauvre fraude. Et ça, il faut le comparer à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, le non-recours. Puisqu'effectivement, il y a 60 millions de fraudes, mais le non-recours, c'est plusieurs milliards, et notamment pour le RSA, c'est 5 milliards qui ne sont pas dépensés par l'État. Donc voilà, donc il faut arrêter de dire n'importe quoi, il faut poser quelques chiffres, et ce petit bouquin est très précieux pour ça, pour dire... Allez, attendons, attention, ne parlons pas de n'importe quoi. Voilà, on pourrait aussi parler des... Je vois que l'heure tourne. Dire que les pauvres sont des feignants. Ça, c'est bien connu, ils ne veulent pas travailler. Alors, quand on voit le marché de l'emploi aujourd'hui, on sait très bien que les gens qui ne travaillent pas, les 3,5 millions de chômeurs, en général, ce n'est pas volontaire. La plupart d'entre eux cherchent vraiment un travail et désirent retrouver un travail, puisque dans notre société, c'est quand même le travail qui redonne la dignité. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a, dans l'opinion française, quelque chose qui se généralise et un basculement. Et l'enquête du Crédoc de 2014, que je vous conseille aussi en référence, sur l'opinion des Français, qui est une enquête suivie depuis 35 ans, il y a eu un basculement après la crise, donc en 2008, et une remise en cause des politiques sociales qui est majoritaire. Et 64% des Français, donc deux tiers des Français, donc deux tiers d'entre nous, pense que s'ils le voulaient vraiment, la plupart des chômeurs pourraient retrouver un emploi. Donc sous-entendu, ils le font quand même exprès et ils ne cherchent pas vraiment. Et ça, c'est très grave parce qu'avant la crise, c'était minoritaire. C'était 40% des gens qui pensaient ça. Maintenant, une majorité des Français, et vous voyez pourquoi les idées populistes fleurissent sur ce terreau-là. Il y a aussi 37% des Français qui pensent que les personnes qui sont dans la pauvreté n'ont pas fait d'efforts pour s'en sortir. Alors que avant 2008, il n'y avait que 25% qui pensaient ça. Et les gens disaient plutôt ils n'ont pas eu de chance dans la vie. Là maintenant, les gens disent ils font pas d'efforts pour s'en sortir. Et c'est des choses qui montent très très fort. Voilà. Et là, 75% des Français, les trois quarts des Français, pensent qu'il est plus avantageux de percevoir les minima sociaux qu'un revenu du travail. Donc ça, c'est une idée qui est ancrée profondément et qui est fausse. Alors, j'ai pas le temps de vous démontrer les choses aujourd'hui, mais c'est faux. C'est faux d'abord pour la bonne et simple raison qu'on ne cumule pas, contrairement aux idées reçues, les travailleurs sociaux et tous les gens du Secours catholique qui sont là, et vous le savez aussi sans doute, on ne cumule pas le RSA et les prestations familiales. Ça s'exclut. Quand vous avez les prestations familiales pour deux ou trois enfants, vous n'avez pas de RSA. Alors que dans les calculs qui circulent, on cumule tout et on arrive à des choses aberrantes. Donc voilà, vraiment, ces idées reçues sur les pauvres, il faut vraiment les combattre. Il faut arrêter de penser que les gens sont tous des profiteurs, des fraudeurs, des fainéants. Les étrangers qui arrivent, je vous en parle pas, mais on pourra y revenir dans les questions. Bien sûr, c'est des gens qui ne travaillent pas et qui sont pas qualifiés. J'aurais envie de vous parler un peu de Calais, puisque le Secours catholique est très présent à Calais. Vous en avez entendu parler beaucoup ces jours-ci, parce que l'actualité est brûlante. À Calais, moi, les personnes exilées que j'ai vues sont tous des gens qualifiés, justement, qui quittent leur pays parce que, étant qualifiés, faisant partie de l'élite, notamment en Érythrée, notamment au Sud-Soudan, ils sont persécutés. Ils sont persécutés, ils sont mis en prison de manière tout à fait arbitraire. Donc beaucoup d'étrangers qui viennent en France sont qualifiés. Et là, ceux qui quittent leur pays, c'est qu'ils ont le courage de le faire. Ce n'est pas les plus pauvres qui quittent leur pays, qui entreprennent des voyages terribles pour venir jusqu'en Europe. Donc là aussi, sur les étrangers, il y a beaucoup d'idées reçues qu'il faudrait combattre. Et puis, on a dans l'idée aussi que les pauvres sont juste des gens à secourir. à nourrir, voilà, et qui n'ont pas d'autres besoins. Et ça, je m'arrête un tout petit peu là-dessus, parce qu'il y a en France, et puis en Europe d'ailleurs, quelque chose qui est très connu, qui s'appelle la pyramide de Maslow, et vous trouverez un petit chapitre là-dessus aussi dans ce livre. La pyramide de Maslow, elle fait des ravages parce qu'elle dit, les gens, ils ont différents types de besoins. Les premiers besoins, c'est les besoins vitaux. Ensuite, il y a les besoins de sécurité. Ensuite, il y a les besoins affectifs. Et puis, les besoins culturels. Et puis, tout en haut, toute petite pointe, les besoins spirituels. Donc, ça veut dire que les besoins spirituels, on ne s'en occupe pas tant que les besoins vitaux, se nourrir, se loger, avoir un travail, ne sont pas satisfaits. Et ça, c'est une hérésie. C'est une absurdité. C'est une absurdité. Les gens, et ils sont comme nous, même quand ils sont dans la grande pauvreté. Ils veulent effectivement avoir de quoi manger, avoir un toit sur la tête, mais ils ont aussi besoin de culture. Et j'ai relu récemment, à l'occasion de l'entrée au Panthéon de Geneviève de Gaulle, son magnifique petit livre qui s'appelle « La traversée de la nuit », qui dit bien à quel point dans les camps de concentration à Ravensbrück, ce qui les a sauvés, c'est la culture, parce qu'ils se récitaient des poèmes, ils échangeaient sur des grands philosophes. Germaine Tillon, l'amie de Geneviève de Gaulle, elle a écrit un opéra ou une pièce de théâtre à Ravensbrück. Donc la culture, c'est essentiel, même si on est dans la très grande pauvreté. Et sur les besoins spirituels, je pense que c'est le pape François qui nous en parle le mieux dans l'exhortation apostolique La joie de l'évangile, qui est un petit trésor, au numéro 200. Je vous lis ce très beau passage. Je veux dire avec douleur que la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle. L'immense majorité des pauvres a une ouverture particulière à la foi. Ils ont besoin de Dieu et nous ne pouvons pas négliger de leur offrir son amitié, sa bénédiction, sa parole, la célébration des sacrements et la proposition d'un chemin de croissance et de maturation dans la foi. C'est magnifique ce texte. Jamais un pape, enfin je n'ai pas le souvenir moi, ne nous avait dit ça. La pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle. Et donc je pense que ça doit beaucoup nous faire réfléchir. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de donner des aides urgentes et immédiates quand il y en a besoin, mais qu'il faut en même temps offrir la culture, le dialogue spirituel, l'amitié spirituelle. Je crois que c'est très très important. Voilà. Et donc, à l'envers de ces idées reçues, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder les pauvres comme des gens qui travaillent envers et contre tout? Et on a tous des exemples en tête de gens qui, malgré les difficultés, trouvent des petits boulots, 2 heures de travail par-ci, 3 heures de travail par-là, déclarés ou pas, parce qu'ils prennent tout ce qui bouge. Et les employeurs en profitent d'ailleurs pour ne pas les déclarer. Voilà. Mais tant pis, ils préfèrent justement avoir cette dignité que confère le travail, même si c'est un travail morcelé, même si c'est un travail en miettes. Et c'est des gens courageux et qui se battent, et qui pensent surtout, qui réfléchissent. Et je voudrais vous donner juste 2-3 phrases que j'ai extraites d'une étude que le Secours catholique a faite en région parisienne sur des familles hébergées à l'hôtel. Donc sur 250 familles qui sont rencontrées par le Secours catholique en Ile-de-France et qui vivent dans des conditions de très très grande insécurité, insalubrité, manque d'hygiène, il n'est pas possible de se faire à manger correctement dans la chambre d'hôtel, donc ils mangent des sandwichs, des boîtes de conserve, donc il y a un vrai problème de santé publique et une grande insécurité qui se traduit par cette phrase d'une maman qui dit tous les jours on se lève et on a peur d'un coup de téléphone du 115 qui nous dit qu'il faut changer d'hôtel. Donc le 115 c'est le centre d'appel pour les personnes de la rue qui logent les gens à l'hôtel et on leur fait changer d'hôtel très très souvent. Si tu as un différend avec l'hôtelier, alors là c'est pire, tu trembles. Dès que le téléphone sonne, tu te dis c'est le 115 Tu n'as pas le droit de ne pas être d'accord, pas le droit de réfléchir, de penser. C'est tout simplement traumatisant. Voilà. Donc ces familles vivent une grande sécurité. Et je pense qu'à Toulouse, il y a beaucoup de familles aussi qui vivent comme ça à l'hôtel, dans ces conditions d'insécurité, d'insalubrité, de promiscuité aussi, parce que toute la famille est dans la même chambre, les enfants partagent souvent le lit des parents, etc. Et malgré ça, j'ai trouvé des témoignages bouleversant de courage, je dirais même héroïque. Une maman, par exemple, qui dit « Je me lève à 5 heures chaque matin. Je me prépare dans le noir pour ne pas réveiller les enfants. » Donc on l'imagine qui sort de la chambre, qui est dans le noir dans sa chambre. « Et je finis de m'habiller dehors dans le couloir pour arriver à mon travail net et pimpante. » Et une autre maman qui dit « Malgré 11 déménagements, on a réussi à maintenir les enfants dans la même école. » Vous vous rendez compte, moi je trouve ça extraordinaire. Donc la priorité pour cette maman, c'est l'école, la stabilité de ses enfants, qu'ils gardent la même maîtresse, qu'ils puissent apprendre dans l'idée qu'ils auront un avenir meilleur s'ils arrivent à suivre à l'école. Eh bien, elle a mis toute son énergie à ne pas les changer d'école, avec des trajets de 3 quarts d'heure, 1 heure, parce que parfois ils sont dispersés dans la région parisienne assez loin. Et puis un autre petit témoignage très bref que je voulais vous lire, puisqu'il a trait à la fois au courage des gens et puis à la question du regard que l'on porte sur eux. À l'école, mon fils s'est fait traiter de clochard parce qu'il vit à l'hôtel. D'autres enfants ont reçu les mêmes critiques. Pour les enfants, cela fait mal. Ils ont des amis à l'école. Mais dès qu'ils parlent de leur vie à l'hôtel, les rapports changent. Un jour, la mère d'un ami de mon enfant a voulu nous raccompagner en voiture. Ce jour-là, elle a découvert où on habitait. Les rapports n'étaient plus comme avant. Elle nous a ramené des habits, des jouets. Elle a eu pitié. Et on sent que cette pitié, elle crucifie cette femme. On lui apporte des jouets, on lui apporte des habits, c'est très gentil, ça part d'une bonne intention. Mais cette femme, elle sent que le regard n'est plus le même. C'est plus un regard d'amitié, c'est un regard descendant, voire condescendant. Vous connaissez d'ailleurs sans doute le très beau livre de Stefan Zweig, « La pitié dangereuse ». Voilà, donc je ne m'étends pas plus là-dessus, mais je crois qu'on pourrait multiplier. Et puis vous connaissez vous-même des exemples de courage, et on parle jamais du courage de ces familles très pauvres. On parle de leur manque, de leurs difficultés, de leur tricherie, voilà, mais on parle jamais du courage de leur famille, de leur volonté de s'en sortir, de leur volonté de réfléchir et d'apporter quelque chose à la société. Et donc c'est très important de déconstruire ces idées reçues, parce qu'on va pas pouvoir s'associer avec des gens en qui on ne croit pas. C'est tout juste pas possible, voilà. Donc si on n'a pas l'intime conviction que ces hommes et ces femmes, malgré leurs difficultés, leur pauvreté, sont nos égaux, nos frères, ça va être vraiment difficile d'aller plus loin. Et donc il faut vraiment faire cet effort de connaissance, de réflexion, donc à travers des petits livres comme celui qui veut en finir avec les idées fausses sur la pauvreté, mais aussi par l'expérience de la rencontre. Rien ne remplace l'expérience de la rencontre et de l'écoute, et d'une écoute vraie, d'une écoute jusqu'au bout. Alors au fond, deuxième point, pourquoi est-ce qu'il faudrait écouter les pauvres? Quel intérêt finalement? Pourquoi est-ce qu'on a besoin des pauvres pour construire la société, pour construire le monde, pour changer le monde? D'abord, je dirais, c'est le bon sens. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. C'est-à-dire décider pour vous, décider à votre place, penser à votre place et vous dire ce qui est bon pour vous sans vous demander votre avis. Et ça, on l'accepte pas pour nous-mêmes, mais on le fait tout le temps. On le fait tout le temps pour les pauvres. On ne leur demande pas leur avis, on n'a pas cette habitude. Et pourtant, les sociologues nous disent qu'il y a un vrai savoir d'expérience, qu'il n'y a pas que le savoir intellectuel, qu'il y a un vrai savoir d'expérience, on appelle ça aussi une expertise d'usage, et que donc il ne nous viendrait pas à l'idée de transformer un quartier sans prendre l'avis des habitants, de parler de la question du handicap sans prendre l'avis des handicapés ou des familles, de réformer l'école sans prendre l'avis des parents d'élèves, des enseignants, etc., de réformer l'ENA sans prendre l'avis des énarques, enfin... C'est le bon sens le plus élémentaire, et on nous parle beaucoup de démocratie participative. On en a à tous les étages, des conseils des anciens, des conseils des jeunes, des conseils des quartiers, des conseils de maison. Mais la plupart du temps, ces conseils, ces lieux de démocratie participative se font sans les pauvres, souvent sans les jeunes aussi, sans les personnes très âgées, sans les pauvres qui se sentent pas à l'aise parce que ils n'ont pas les codes, c'est pas pour eux. Donc le bon sens déjà devrait nous dire, mais si on veut travailler pour les pauvres, travailler sur la question de la pauvreté, c'est d'abord avec les personnes les plus pauvres. Deuxièmement, il y a des prophètes, j'allais dire, et des témoins qu'il faudrait entendre et qui nous disent depuis toujours que la parole des pauvres est importante. Saint Vincent de Paul nous a dit « les pauvres sont nos maîtres ». C'est pas rien cette phrase. Et on peut la prendre au pied de la lettre. Je pense qu'on en a, on a aussi des exemples très concrets où les pauvres nous ont vraiment appris des choses fondamentales. Bernanos aussi, qui est souvent cité par Geneviève de Gaulle, d'ailleurs elle a écrit un livre qui s'appelle « Les pauvres ont le secret de l'espérance » et c'est une phrase de Bernanos. « Les pauvres ont le secret de l'espérance ». Donc dans un monde sans espérance, je pense qu'il est urgent d'entendre les pauvres s'ils ont le secret de l'espérance. Et Jean Vanier aussi dit souvent qu'il est venu à la rencontre des personnes très handicapées pour tout un tas de raisons bonnes et mauvaises, et ce qu'il a découvert in fine, c'est la sagesse des pauvres. Donc voilà, on a plein de témoins, et on pourrait multiplier les exemples, plein de témoins qui nous disent oui, les pauvres ont quelque chose d'unique, d'essentiel à nous dire sur le monde, sur l'espérance, sur la sagesse, etc. L'évangile est truffé de phrases et d'invitations à écouter les pauvres. Alors, la plus connue, c'est celle de Matthieu 11, 25. « Ce que tu as caché aux sages et aux instruits, tu l'as révélé aux tout-petits. » Ça aussi, on l'écoute, on l'entend, on la réentend, on se la répète, cette belle phrase. « Ce que tu as caché aux sages et aux savants », il y a plusieurs traductions, voilà. « Tu l'as révélé aux tout petits, aux très pauvres ». Et cette phrase, elle est lourde de sens. Et pour moi, elle rejoint aussi tout ce que saint Paul nous a enseigné sur le corps du Christ. Chacun est membre de ce corps, chacun, il y a un très beau chant qui nous dit « chacun est membre de ce corps, chacun reçoit la force de l'Esprit-Saint pour le bien du corps entier ». Donc ça veut dire que s'il y en a un qui est à l'écart, le corps est amputé. Le corps est spirituellement, mais aussi physiquement amputé. Il manque quelque chose. Et puis on pourrait se demander à quelle place sommes-nous dans ce corps. On a une seule certitude, c'est le Christ est la tête de ce corps. Ça, c'est sûr, il nous l'a dit. Après, à quelle place sommes-nous, à quelle place sont les pauvres? Est-ce qu'on n'a pas mis des petites hiérarchies? Voilà, nous on est à la bonne place des membres très utiles, et puis à ceux qui sont dans un tout petit coin de notre corps où on pourrait presque s'en passer. Non, peut-être que c'est nous qui sommes à cette place du petit doigt de pied pas forcément très utile, encore que les podologues diraient que même le plus petit doigt de pied est indispensable. La petite parcelle de notre corps, eh bien les pauvres, peut-être qu'ils sont à la place d'honneur. Donc cette question du corps du Christ, elle doit nous parler aussi, nous inviter à la réflexion et à la place que nous donnons mutuellement et à la place que nous donnons aux pauvres dans ce corps et à l'amputation que cela représente quand ils ne sont pas là, quand ils ne sont pas à leur place, justement. Et puis, in fine, c'est toujours le pape François qui nous parle le mieux de ce que les pauvres ont à nous dire. Et excusez-moi, c'est mon livre de chevet. Maintenant, il va falloir que j'attaque Laudato aussi. Ça, c'est le programme de cet été. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup lu et relu donc la joie de l'Évangile. Et dans la joie de l'Évangile, c'est au numéro 198 que le pape François nous invite à écouter les pauvres, dans un passage qu'il faut vraiment aussi lire et relire. Pour cette raison, je désire une église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. en plus de participer au Sensus Fidei, par leur propre souffrance, ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences et à les mettre au centre du cheminement de l'Église. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leur cause, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. Voilà, on retrouve la sagesse des pauvres dont parle souvent Jean Vanier aussi. Ils ont beaucoup à nous enseigner, nous dit le pape. Et je crois qu'il parle d'expérience. Tous les prêtres et les évêques d'Amérique latine nous disent cela avec beaucoup de force depuis des années. Nous devons nous laisser évangéliser par eux et les mettre au centre du cheminement de l'Église. Non pas à la traîne, mais au centre du cheminement de l'Église et de toutes les démarches. Les démarches de catéchèse, les démarches de liturgie, les démarches d'évangélisation, ils doivent être là au cœur et non pas à côté. Je m'arrête sur un tout petit point. Nous sommes là appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leur cause. Et j'ai en mémoire ce que nous disait Gustavo Gutiérrez il n'y a pas longtemps à l'Assemblée Générale des Caritas, des 165 Caritas du monde qui étaient réunis à Rome il y a un mois. Et Gustavo Gutiérrez, c'est un compagnon de Monseigneur Romero, un des pères de la théologie de la libération. Et il nous disait, oui, vous pouvez être porte-parole des pauvres, mais pas longtemps. Un petit moment, au moment où c'est peut-être indispensable, où ils ne sont pas encore organisés, mais après vous devez vous effacer, c'est eux qui doivent prendre la parole. Et donc le pape nous dit aussi un peu la même chose, prêter notre voix à leur cause, mais ça ne veut pas dire qu'on parle à leur place. On les laisse parler, on leur donne la parole. Voilà, donc il y a plein de bonnes raisons qui font que on doit vraiment avoir à cœur de rechercher cette parole et cette place des pauvres dans la société et dans l'Église. Alors comment on fait maintenant, troisième point, comment on fait? Parce que si c'était si simple, ben on l'aurait fait depuis longtemps et ça se pratiquerait et voilà, ça poserait de problème à personne. Donc il y a quelque chose qui coince, comment faire, comment essayer de s'associer vraiment avec les pauvres. Alors il y a déjà un petit principe de base, c'est qu'il faut le faire dès le départ. Sinon après le train s'en va, et même quand c'est le train de la fraternité, une fois qu'il est parti, les pauvres restent sur le quai de la gare et on n'y pense plus. Voilà. Donc il faut vraiment qu'il soit dans la locomotive comme moteur. Et Joseph Rzezinski le disait depuis toujours, la priorité aux plus pauvres se place au point de départ, elle n'est jamais acquise en chemin. Et moi ça j'en ai fait l'expérience effectivement, quand les choses ne sont pas pensées avec les pauvres dès le départ, eh bien d'autres s'en saisissent. Voilà. D'autres s'en saisissent et l'utilisent et les pauvres restent en arrière. Donc ça c'est vraiment un point important. Donc je vais essayer d'aborder l'association avec les pauvres dans la société et puis après dans l'Église. Donc dans la société, peut-être vous dire deux mots justement de mon expérience d'élu. Pendant trois mandats, presque 20 ans, j'ai essayé donc sur la ville de Bordeaux de fédérer toutes les énergies autour de la question de la pauvreté, de la lutte contre l'exclusion, en partant du principe que justement la lutte contre la pauvreté n'est pas l'affaire de spécialistes. On ne peut pas laisser ça aux travailleurs sociaux et au Secours catholique et à quelques autres associations. C'est vraiment l'affaire de tous. C'est vraiment par la mobilisation de tous qu'on permettra à tous d'avoir accès aux droits fondamentaux et d'avoir une place dans la société. Et donc vous comprenez bien que la position des enseignants, est crucial. Si les enseignants ne sont pas de la partie, eh bien les enfants n'apprendront pas à l'école et la pauvreté se reproduira. La position des magistrats, la position des chefs d'entreprise, l'avis des fédérations de parents d'élèves, l'avis des paroissiens, enfin, donc, c'est toute la société, les syndicats sont concernés, donc c'est toute la société qui doit s'unir pour refuser la pauvreté et pour refuser l'exclusion. Et donc, autour du maire de Bordeaux, j'avais fédéré tous ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire l'État, le Conseil général, la Caisse d'allocation familiale, Pôle emploi, les organismes HLM, etc., toutes les institutions, mais aussi toutes les associations. Et quand je dis toutes, on avait étendu aux associations culturelles, aux associations sportives. Voilà, c'était pas que les associations de la solidarité, bien loin de là. Et donc parce que voilà, on avait bien compris que permettre aux enfants de familles pauvres d'accéder à des pratiques sportives, c'était très important pour leur épanouissement personnel, pour leur réussite à l'école, pour leur intégration dans le quartier, etc. Donc on avait réuni sur la ville de Bordeaux, ça représentait plus de 250 associations, et on a toujours cherché. Et je dis bien chercher parce que j'en parle avec modestie, parce qu'il y a eu des réussites et des échecs. On a toujours cherché à associer les personnes les plus pauvres. Alors, sous différentes façons. Dans le premier mandat, j'avais créé un comité d'usagers au Centre communal d'action sociale. Et d'ailleurs, les personnes pauvres m'ont dit, mais usager, ça nous plaît pas, c'est pas un joli mot, ça fait user, usager, pour nous, quelque chose d'usager, c'est quelque chose qui est usé, donc on veut pas être des usagers. Quelquefois, ils ont du bon sens, hein, ils nous rappellent à des évidences. Et donc, ça s'est appelé le groupe de dialogue citoyen, parce qu'ils trouvaient que c'était préférable pour eux d'être reconnus en tant que citoyens. Donc, on a essayé ça pendant une dizaine d'années, ça a fonctionné tant bien que mal, il y a eu des avancées, on a réussi des choses et puis on a échoué sur d'autres. Voilà, c'était un lieu comme d'apprentissage de la citoyenneté, puisque justement quand ils identifiaient un problème, on prenait le temps de leur expliquer que la décision, elle dépendait soit du centre communal d'action sociale, soit du maire de Bordeaux, soit du président de la communauté urbaine, soit du gouvernement, voire de l'Europe, etc. Donc à chaque fois, il fallait bien positionner le problème, la réponse à apporter. Donc voilà, ça a été un travail très très intéressant, et puis qui a eu aussi ses difficultés et qu'on a fini par abandonner. Ensuite, on a essayé de faire des groupes par quartier. Donc dans chaque quartier, on a invité les habitants à donner leur avis sur ce projet social de la ville et à surtout donner leurs idées. Donc par quartier, on a appelé ça comment s'appelait ça, le nom me reviendra, voilà. Et là aussi, on avait fait attention à essayer d'inviter des associations qui travaillent avec des personnes très pauvres, des centres sociaux, etc., de contacter tout le monde. On a eu des habitants des quartiers, mais on n'a pas eu évidemment les personnes les plus pauvres. Mais néanmoins, il s'est fait des choses, et des belles choses. J'ai en mémoire un quartier qui a voulu créer, un quartier très populaire, il y a beaucoup d'habitat social, qui a voulu créer un système d'échange local. Voilà. Donc voilà, c'était, vous savez que c'est un système qui permet d'offrir et de demander des services, et qui permet à chacun, même le plus pauvre, même celui qui se croit inutile et bon à rien, de dire, ben oui, j'ai quelque chose à apporter aux autres. Je sais des choses, même si c'est un savoir pratico-pratique, mais je sais des choses, j'ai des choses à échanger, et j'ai des désirs aussi. Voilà. Donc c'est un très beau système. Donc voilà, il y a des belles choses qui sont nées comme ça. Mais, in fine, ce que je retire de toutes ces années d'expérimentation politique, de toutes ces années où j'ai vraiment recherché, je crois avec beaucoup d'honnêteté, à faire participer les personnes pauvres au projet social de la ville, c'est que c'est quasiment impossible du point de vue d'une institution, et que seules les associations peuvent être les médiateurs dans ce processus. Et donc je regrette beaucoup de ne pas avoir entendu l'intervention d'hier sur les associations, et ça m'intéresse de savoir si voilà, vous avez abordé cette question-là, puisqu'il était question de la richesse des associations. Pour moi, seules les associations peuvent être les médiateurs de cette parole les plus pauvres. Parce que ce n'est que dans les associations que les personnes très fragiles, qui n'ont pas confiance en elles, vont pouvoir cheminer tranquillement, vont pouvoir être reconnues, vont pouvoir être en amitié, vont pouvoir oser prendre la d'abord oser rester en silence, parce qu'il ne suffit pas de mettre quelqu'un sur la autour de la table et lui dire « je te demande de participer ». Il n'y a pas d'injonction de participation. Et on sait très bien qu'il y a des personnes qui vont d'abord être silencieux dans un groupe pendant parfois des mois avant d'oser prendre la parole. Et bien ça, c'est que dans les associations que ça va pouvoir se passer. On va prendre le temps, on va avoir la patience de s'écouter, d'écouter les silences, de donner confiance à chacun, de pouvoir valoriser la parole de chacun aussi, parce que dans une grande réunion, quand la parole disparaît et qu'on ne la retrouve pas dans un compte-rendu, ben la personne elle vient une fois, puis elle ne vient pas deux fois, parce qu'elle dit « ma parole ne sert à rien ». Voilà. Et donc moi, j'ai vraiment cette intime conviction, et que j'ai eu l'occasion d'en parler aussi avec des responsables d'ATD Quart-Monde qui partagent aussi ce constat et puis cette conviction. Donc les associations ont un rôle central à jouer dans cette prise de parole des pauvres dans la société. Et donc là vraiment il y a un travail à faire avec les associations, puisque la démocratie participative directe, elle fonctionne très bien avec des gens qui ont les codes, avec des gens comme nous, voilà, on peut rentrer dans n'importe quel sujet à peu près, ou si on connaît pas, on apprend vite, voilà. Mais avec des personnes très pauvres, on est dans un autre monde, avec d'autres codes, et parfois on se comprend pas sur les mots, tout simplement. Je vous parlais du mot usager, les usagers d'un CCAS, pour moi, ça n'avait rien d'offensant. Pour eux, c'était blessant. Voilà, donc déjà sur les mots, parfois on a besoin de s'accorder. Voilà. Et puis, je fais une petite parenthèse aussi pour dire qu'en France, on a besoin vraiment de croire davantage en la démocratie participative et peut-être un jour de la financer. On a beaucoup d'argent pour financer la démocratie représentative et notamment nos partis politiques. Et là, il y a un travail actuellement qui se fait et auquel je vais participer à partir du mois de septembre, pour dire cette démocratie participative, notamment dans les quartiers très pauvres, fragiles, notamment avec des personnes qui n'ont pas les moyens, il faut qu'elle soit financée quand même. Il faut donner des moyens à des groupes, à des collectifs d'habitants, justement à des associations qui vont, pendant des mois et des mois, porter la parole des plus pauvres, l'aider à se construire. Et donc il y a un courant de travail là, qui est porté par un rapport qui a été fait il y a 2 ans pour le ministre de la Ville, Monsieur Lamy, qui a été fait par Marie-Hélène Baquet, et Mohamed Meshmash, et qui propose que 1% du financement des partis politiques et 10% de la réserve parlementaire, en pourcentage c'est rien du tout, en valeur absolue j'ai pas encore fait le calcul mais c'est beaucoup à mon avis, que ces fonds soient attribués à un fonds de participation destiné justement à soutenir les petites associations de quartier, les collectifs qui vont construire cette parole des pauvres. Et ça c'est très important, je pense que si on arrive à cela, ça sera politiquement un signe fort des élus de la nation de dire on veut que la démocratie participative, la démocratie de terrain, elle est aussi des moyens. Donc j'espère qu'on arrivera à gagner cette bataille. Voilà, donc dernier point de mon intervention en quelques minutes. Comment s'associer avec les pauvres dans l'Église? Donc je voudrais parler de l'exemple de Diaconia 2013. Avec beaucoup de prudence, parce que je n'y ai pas participé, malheureusement. Je n'étais pas encore au Secours catholique, et dans mon diocèse, il y a eu peu d'informations, donc je suis passée à côté de ce grand événement, mais je pense que plusieurs d'entre vous y ont participé, et je crois que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y avait 12 000 personnes réunies à Lourdes, dont 3 000 personnes en situation de pauvreté. Voilà, une idée, donc Diaconia 2013, qui a été beaucoup portée par le Secours catholique, et qui, si j'ai bien compris, est issu de Deus Caritas Est, avec ce rappel que nous avait fait le pape Jean-Paul II ou Benoît XVI, j'ai un doute. Benoît XVI, merci. Ce rappel que nous avait fait le pape Benoît XVI, ce rappel de notre baptême en fait, hein, que nous sommes prêtres, prophètes et rois, et donc que nous avons à vivre la liturgie, l'annonce de la parole et la diaconie, le service du pauvre, mais ensemble. Il n'y aurait pas les spécialistes de la diaconie et les spécialistes de l'annonce de la parole et les spécialistes de la liturgie. Nous, en tant que baptisés, nous avons à vivre tout ça en même temps et en Église. Et donc, ce que j'ai compris de Diaconia, c'était vraiment faire Église ensemble. Et pour la première fois en France, et certains disent peut-être dans le monde, donc des personnes pauvres ont été associées à l'organisation et au sens même de l'événement. Voilà, ils n'ont pas été associés uniquement au choix de la couleur du livret ou du lieu de réunion, voilà, des choses marginales auxquelles on associe simplement, parfois les plus pauvres en se disant « bon, c'est déjà bien pour eux ». Non, là, ils ont été au cœur de la démarche associée au sens. Et donc, il y a un groupe qui s'appelle Place et Parole des Pauvres, qui pendant 3 ans a travaillé sur le sens de ce rassemblement. Et ce groupe Place et Parole des Pauvres, il était constitué de 20 personnes, dont 15 en précarité. Donc ils étaient vraiment au cœur de ce sujet. Et parmi eux d'ailleurs, il y avait la sœur Suzanne Struss, je crois. Struss, ça, comment on dit ? Donc qui est une Toulousaine que vous connaissez certainement, qui a fondé cette petite communauté de la Bonne Nouvelle, qui est une communauté de partage de l'Évangile avec les personnes très pauvres. Voilà. Donc l'esprit de Diaconia, c'était bien de ne pas faire la charité, mais d'être charité ensemble. Donc être charité dans la relation à l'autre, dans l'amitié avec l'autre. Et de découvrir que les pauvres ne sont pas ceux qui demandent l'aumône ni une aide, mais qu'ils veulent être entendus, être reconnus, être associés, et qu'ils ont des richesses à partager. Et je vous ferai une photocopie là, dans la journée ou de la matinée d'un très beau texte de ce groupe Place et Parole des Pauvres, qui reprend en fait tout ce que je viens de vous dire, et notamment tout ce qu'ils ont appelé à vivre à Diaconia pour transformer profondément l'Église. Voilà. Et donc, ma conclusion sera la conclusion de Diaconia, hein, donc qui est une phrase maintenant qui habite tous ceux qui ont vécu Diaconia et l'Église et que nous avons apporté. Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager. Donc c'est une phrase un peu compliquée parce qu'elle a une double négation. Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager. C'est-à-dire que chacun, quelles que soient ses conditions de vie, a quelque chose à partager, a des richesses à partager. Et ça, je trouve que cette conclusion de Diaconia, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle pour l'Église, mais c'est une bonne nouvelle pour la société tout entière. Parce que cette transformation qui est à l'œuvre dans l'Église aujourd'hui et à laquelle vous participez sans doute les uns et les autres, c'est un nouveau chemin pour l'Église, c'est une transformation profonde de l'Église, et ça va être un chemin de transformation pour la société tout entière. Moi, j'ai la conviction que grâce aux pauvres et avec eux, parce qu'on va savoir de mieux en mieux les associer et non pas faire pour eux, non pas faire seulement avec eux, mais faire à partir d'eux dès le point de départ, parce qu'on va apprendre à faire cela de mieux en mieux, eh bien l'Église va devenir vraiment un ferment de transformation pour toute la société. Et c'est toute la société qui a un besoin urgent de ce message et de cette transformation. Et moi, j'ai très envie, après avoir été élu pendant 25 ans, donc de vivre cette transformation en Église et dans la société, et avec vous et avec les plus pauvres. Je vous remercie.
Nous venons d'écouter une conférence donnée par Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas France. S'associer avec les plus pauvres, une ardente obligation. C'était là le sujet d'une conférence développée le 3 juillet dernier dans l'église de Castanet-Tolosan, et ce, dans le cadre de la 8e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet.